Nous sommes de retour dans l'interview de l'Auberge espagnole sur Divergence, toujours en compagnie d'Henri Frasque, journaliste et membre de l'OFALP. Vous êtes journaliste, et est-ce que selon vous, quel est le lien entre la presse locale et le politique local ?
Alors, question simple, mais réponse complexe. J'ai envie de dire qu'ils ont un peu besoin l'un de l'autre. D'une façon, l'homme politique ou la femme politique, il peut s'exprimer sur les réseaux sociaux, il a tout un tas de canaux, mais ici, en local, il a aussi besoin de la presse, de la presse quotidienne, de la presse hebdomadaire, des médias divers et variés pour pouvoir délivrer son message. Donc voilà, le journaliste de son côté, il a un devoir d'information, donc forcément une source locale, que ce soit la mairie, que ce soit le conseil régional, le conseil départemental, ça va être une source importante pour lui. Mais c'est pas la seule source. Voilà. Après c'est une relation toujours complexe, mais bon, qui se passe relativement bien ici.
Les images qu'on se fait des atteintes de la liberté de la presse, c'est souvent des situations engendrées par des acteurs, donc on l'a vu, des politiques, des manifestants. Est-ce que parfois elle peut venir du système lui-même, cette menace ? Est-ce qu'il peut y avoir une tension ?
Alors, le système, c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez préciser la question ?
Par exemple, le système économique, les algorithmes, ou même la manière de travailler avec l'introduction des IA ?
Alors, c'est plusieurs questions en une. Si on parle de l'IA, c'est une pression, c'est un outil en fait, c'est un outil qui peut être utilisé ou ne pas être utilisé, qui est pour l'instant embryonnaire, mais qui commence à arriver de plus en plus dans un certain nombre de rédactions, avec des chartes, pas de chartes. Est-ce que ça produit une pression sur la production d'informations ? Oui, ça peut produire une pression dans la mesure où certains journaux, certains journalistes peuvent être concurrencés par des productions, des articles, des productions par IA, oui.
Et vous, quel est votre rapport très personnellement dans votre travail à l'IA ?
Alors, mon rapport personnel à l'IA, c'est que je ne l'utilise pas du tout pour écrire des articles. Ça va m'arriver de l'utiliser pour approfondir une recherche sur un thème très précis. Voilà. Mais en écriture, jamais. Après, je m'aperçois de temps en temps, quand je lis certains articles, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes journalistes, des fois, on voit que certains passages, certains articles ont été lus par IA. Et je pense que dans ces cas-là, la moindre des choses, c'est quand même dans l'information lecteur.
Est-ce que les médias, ils ont des chartes d'utilisation de l'IA ?
Certains médias en ont, d'autres n'en ont pas. Alors moi, je travaille pour plusieurs médias. L'un, à ma connaissance, a une charte et une déontologie particulière par rapport à l'utilisation de l'IA. L'autre n'en a pas et laisse les journalistes libres de l'utiliser ou pas.
Divergence s'est entretenue avec un jeune journaliste et je vous propose d'écouter son témoignage sur la pression qu'a pu exercer les algorithmes sur la rédaction de Midi Libre à Montpellier.
J'ai atterri à Midi Libre par le biais d'un contact que j'avais, qui a un peu remué ciel et terre pour moi pour trouver un stage. Et donc elle avait une amie qui travaillait au sein de Midi Libre, qui m'a mis en contact avec le rédacteur en chef adjoint du service web de Midi Libre. Le poste que j'allais occuper, ça allait être un poste de curation sport. C'était un nouveau poste qu'ils venaient de créer. Et l'objectif était simplement de traiter un peu les faits divers ou les actualités, les informations un peu marrantes, ce genre de choses, les petites anecdotes qui sont liées autour du sport, mais ne pas traiter l'actualité sportive par la performance. Les sujets, par exemple, que j'ai pu traiter, il y avait... quand Sébastien Chabal avait annoncé dans une interview avec Guillaume Play qu'il avait des problèmes de mémoire, bah, par exemple, j'avais dû reprendre un peu cette interview pour la traiter. Alors, il y a un article qui est sorti très rapidement, histoire de ne pas louper le créneau. Mais après, j'avais regardé toute l'interview pour voir s'il n'y avait pas encore d'autres choses à regarder, des choses sur la vie privée de Sébastien Chabal, sur ses projets, d'autres anecdotes par rapport au rugby ou sa vie de famille. Des articles dans ce genre ou bien si par exemple Antoine Dupont, est-ce qu'il était bien en couple ou non avec Iris Mittener, ce genre d'articles et d'autres un peu moins précis sur des personnes qui ne sont pas sur des personnalités publiques, ou par exemple un skieur qui est décédé en montagne, un joueur de foot, un senior âgé de plus de 40 ans qui est décédé subitement d'une crise cardiaque sur un terrain que ce soit en France ou non d'ailleurs. Je devais faire environ 5 à 6 articles par jour. Donc en général, j'en faisais 3 ou 4 la matinée et 3 ou 4 l'après-midi. Et vu que le poste était nouveau et que c'était un test pour voir qu'est-ce que ça donnait au niveau des audiences, il faisait pas trop attention. Je n'avais pas une pression quant aux chiffres que je faisais, parce que justement, ils découvraient, ils étaient nouveaux dessus, donc ils étaient peut-être moins bien référencés que le groupe La Dépêche, par exemple, sur Internet. Donc on en avait parlé à la fin de mon stage des audiences que je faisais, mais ils m'ont mis aucune pression à ce niveau-là, par contre. Le rapport qu'ils avaient avec que la rédaction avait avec les algorithmes, il était quand même très très important, puisque le rédacteur en chef participait à des réunions, à des stages, des formations, lui et d'autres personnes aussi hein, du plus haut placé encore dans le journal. Participer à des réunions et des formations sur comment s'adapter par rapport aux algorithmes, quels sont les mots-clés, toutes les choses liées au SEO. Et donc lui, après, quand il avait fait ses formations, il venait nous voir, nous expliquer que là, c'est peut-être mieux de fonctionner comme ça maintenant, que sur Google Discovery, ce qui est peut-être plus mis en avant en ce moment, c'est ce genre de choses. Il y avait certains sujets où, par exemple, Midi Libre était beaucoup plus mis en avant. Si vous regardez le site de Midi Libre en ce moment, et puis même depuis longtemps, ils font énormément de sujets sur la guerre en Ukraine, parce qu'ils sont bien référencés dessus. Alors que pourtant, il n'y a personne de chez eux qui est en Ukraine. Et je me souviens, parce que j'y étais au moment des élections aux États-Unis, ils avaient fait beaucoup de sujets sur les élections avec Trump, et ça n'avait pas très bien pris. Du coup, ils ont arrêté de le faire, parce que... Sur ce point-là, ils étaient mal référencés. Et sinon, c'est quelques mots, par exemple, dans des titres. Ils me disaient, faut pas que je mette que quelqu'un est décédé, par exemple. C'était vraiment meurt ou mourir. C'était beaucoup mieux référencé sur Google Discovery et ce genre de choses. Je sais pas si les algorithmes impactent totalement la liberté de la presse. Ça doit dépendre des rédactions. Après, je sais que Midi Libre, ils fonctionnent énormément avec le web. Financièrement, ils tiennent énormément grâce au web. Mais j'ai ressenti plus une entrave à la liberté de la presse, plus dans ton style d'écriture peut-être, dans ton choix des titres, que vraiment un peu aussi dans tes choix de sujets. Mais c'était vraiment dans les titres, fallait qu'il y ait tel mot, dans tes articles aussi, il faut citer... Si par exemple il y a des vidéos, si tu peux citer des tweets, par exemple, ça booste beaucoup la mise en avant de ton article. C'est plein de choses comme ça où il y a certains mots, certaines phrases, certains liens que t'es obligé de mettre dedans, parce que sinon en fait ton article il va moins prendre sur le web, quoi.
Alors après avoir dit tout ça, est-ce qu'il y a des solutions qui peuvent être apportées à ces problèmes de la liberté de la presse ?
Alors les solutions, oui, forcément. La solution, c'est de... Enfin, on a listé un certain nombre de problèmes très différents les uns des autres. Par rapport aux pressions qui peuvent... Alors, si on parle des pressions qui peuvent être exercées sur les médias, oui, il y a le fait que, notamment, que les journalistes soient solidaires et puissent être défendus par leur direction et par leurs actionnaires, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est d'ailleurs une des atteintes qui sont listées par l'OFALP, c'est les pressions qui peuvent être en interne.
En interne, par du coup les actionnaires des médias.
Par les actionnaires des médias, ça peut arriver. Hein. Je vous prends l'exemple, pas très loin d'ici, la Provence, Rodolphe Saadé, d'autres médias. Hein. C'est pas...
Qu'est-ce qui s'est passé avec La Provence ?
Alors, La Provence, c'était une info qui n'avait pas plu à l'actionnaire, et de mémoire, le directeur de la rédaction avait sauté. C'était pendant une visite du président de la République à Marseille. Mmh. Et la une mettait en scène des narcotrafiquants avec je crois, un titre un peu provocateur. Ça n'avait pas plu l'actionnaire et le directeur de la rédaction avait sauté.
D'accord. Alors, merci beaucoup, Henri Frasque. Cette interview touche à sa fin. Merci pour votre implication. Et moi, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle interview de l'Auberge espagnole.